On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue dans On Rembobine, votre émission du mercredi soir. Je suis malade, mais tout va bien.
Ça s'entend tellement fort.
Non, ça va. Votre émission, bien sûr, dans laquelle on rembobine de façon musicale.
Et oui, effectivement.
Et, on a un invité aujourd'hui, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas reçu un. Et non pas des moindres, puisque ça va être un spécialiste du groupe dont on va parler. En tout cas, nous accueillons Baptiste. Bonjour Baptiste.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va très très bien.
Et moi,
sûr,
tu me demandes pas.
Bah, c'est parce qu'il s'adressait à moi, mais ça va, voilà. Pablo.
Okay. Et je suis aussi avec Pablo, bien sûr, mon acolyte de toujours.
Ouais.
Comment tu vas?
Très bien. Je suis très super content de faire cette émission avec vous deux.
Oui.
Voilà.
Alors,
fallait que je le dise.
Bah oui. Baptiste, qui es-tu? Que fais-tu dans ta vie? Et quel groupe?
Attends,
de quel groupe va-t-on parler?
Step by step.
Allez,
qu'est-ce que tu fais dans la vie, Baptiste? Présente-toi un petit peu.
Rien à voir avec les épines, je suis pas du tout une rockstar, je suis enseignant.
Bon.
Enseignant, voilà. Tout
enseignant
en histoire.
En rock'n'roll. Non.
Pas du
School
of Rock.
Si seulement.
on
va en parler, School of Rock. Non, enseignant en lettres histoire.
Incroyable.
Oui. Depuis peu.
Depuis pas tant de temps.
Oui, vraiment pas très longtemps.
Trop bien.
Je suis un bébé enseignant.
Oui.
Comme ça.
Un bébé enseignant. Et tu adores. Tu es pratiquant de guitare.
Yep.
Également.
Ouais. Depuis,
tu apprécies la musique.
Depuis que j'ai 14 ans. Donc 10 ans.
Trop bien.
C'est pas mal.
Moi, je suis pas. Je pense que je suis très bas niveau pour quelqu'un qui a 10 ans de guitare, mais ouais, c'est pas mal.
Un bébé guitariste.
Un bébé guitariste. Beaucoup de bébés.
Je suis un gros bébé en fait.
Mais on va parler d'un groupe qui, lui, n'est pas du tout un bébé.
Oh
non,
puisque...
Ou alors c'est le mien.
Oh wow. Mec, il se prend pour qui ce gars?
Puisqu'on va parler d'un groupe qui a quand même vendu plus de 300 millions d'albums, mesdames et messieurs.
Wow.
Nous parlons de, Baptiste, je te laisse le dire,
Led Zeppelin.
Wow, Led Zeppelin. Wow, et oui, mesdames et messieurs, groupe de rock britannique originaire de Londres, bien sûr, formé en 1968. Il est composé de Jimmy Page à la guitare, Robert Plant au chant, John Paul Jones à la basse, et d'autres instruments, on y passera bien sûr, et John Bonham à la batterie bien évidemment, et le groupe va malheureusement se séparer en 1980, date de la mort du batteur John Bonham.
Ouais.
Il a tout spoil.
Ouais,
fin de l'émission.
Voilà, merci à tous, c'était On Rembobine. Non, bien sûr, on estime aussi bien sûr que Led Zeppelin a une énorme influence, même la plus grosse influence des années 70, à la même échelle qu'on pourrait dire que les Beatles ont une énorme influence dans les années 60.
Exact.
Et d'ailleurs, c'est le deuxième groupe qui a vendu le plus de disques de diamants. 5 pour être précis, mesdames et messieurs. Donc,
ouais,
on va s'intéresser à un très gros groupe, mais avant de s'intéresser au groupe, on va bien sûr s'intéresser aux origines, puisqu'on va parler de Jimmy Page, qui est un peu l'origine de ce groupe-là, on va
le
dire,
créateur.
Bien sûr. Puisque déjà, bah, c'est un très 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 bon guitariste, et vous allez l'entendre bien sûr dans toutes ses musiques. Et surtout, il a commencé très jeune,
ouais,
et il a enregistré pour plein de personnes, plein de groupes. On peut parler de Who. Les Kings,
ouais.
Van Morrison,
exact.
Beaucoup de personnes.
Joe Cocker,
oui,
de fou.
Très bon Joe Cocker.
Fun fact, tu peux en balancer une
bien sûr.
Début. En 66, il a enregistré avec un Français.
Oui, bah oui, Michel Polnareff. Puisqu'on en avait parlé, et il a aussi enregistré avec John Paul Jones, à la basse pour sur la musique La poupée qui fait non.
La poupée qui fait non, ouais.
Même que les deux là, en fait, étaient les guitaristes et enfin guitaristes au sens large, parce qu'il
bien
était
sûr.
Bassiste John Paul Jones, mais les plus prisés en Angleterre, enfin au Royaume-Uni.
Et du coup, notre bon petit Jimmy Page, il est dans les Yardbirds, un groupe dont il y a notamment eu Eric Clapton, mais il était surtout aussi pendant l'époque de Jeff Beck. Hein. Bon, Jeff Beck, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir, de dire qui c'est?
Ils se sont croisés? Je crois qu'il a remplacé Jeff Beck.
Non, ils se sont croisés en 66, et après, bien sûr, du coup, il l'a remplacé. Et bien sûr, ils ont commencé à remplacer petit à petit les musiciens, et ça a fait les New Yardbirds, ou on peut le dire... Led Zeppelin,
ouais. Mais d'ailleurs, avant Michel Polnareff, il a aussi enregistré Johnny.
Excusez-nous.
François Hardy, Eddie Mitchell.
Incroyable.
Et tant d'autres que.
Bon, en gros, Jimmy Page pèse dans le game.
Voilà. C'est ouf.
Il y a beaucoup de chansons qu'on peut écouter sans y penser qu'en fait, on a la guitare de Jimmy Page dedans.
Ouais, et on le sait pas.
Incroyable.
Enfin, la guitare, j'en sais rien, parce que peut-être d'autres.
Oui, mais Jimmy Page, quoi.
Voilà.
Et du coup, Baptiste, tu as choisi une musique pour nous lancer un peu dans ses origines, une musique des Yardbirds.
Effectivement, oui. Une musique des Yardbirds. Alors, c'est un double sens parce que c'est la musique des Yardbirds, mais ce n'est pas Jimmy Page qui est dans le groupe à ce moment-là. Mais la musique en question est reprise par plein d'autres groupes, et notamment reprise dans un garage un peu obscur par les quatre membres de Led Zeppelin avant même qu'ils se produisent, juste pour savoir si ça allait marcher entre eux. Et en fait, cette musique-là, ça a été la première musique que Led Zeppelin a jouée ensemble.
Et bah, je propose qu'on l'écoute. Pablo, on fait quoi?
Bah, je crois qu'on va rembobiner.
Et voilà, c'était bien sûr une chanson des Yardbirds, mais qui, grâce à la petite histoire de Baptiste qui nous a expliqué, a été bien sûr jouée par le groupe Led Zeppelin au début pour un peu capter cette alchimie. Mais avant de faire un premier album, il se passe beaucoup de choses, Baptiste.
Oui, effectivement, en fait, l'idée de faire un super groupe comme ça de rock pour Jimmy Page, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que c'est dans sa tête. Il l'avait proposé à, comment il s'appelle le batteur des Who, Kiss Moon,
exactement.
Pendant une session d'enregistrement devant John Paul Jones à l'époque, et il lui avait demandé de former un groupe avec d'autres membres, et cette fois-ci sans John Paul Jones.
Ouais.
Et ce Kiss Moon lui avait dit que son projet allait crasher comme un lead balloon.
Un lead balloon.
Ce qui,
il a eu tort.
Voilà. Qui est une expression anglaise, en fait, pour dire un ballon de plomb, quoi.
Bien sûr.
Ce qui, dans la légende, en tout cas, on ne saura pas si c'est vrai, mais dans la légende, aurait donné Led Zeppelin, qui, on a enlevé le 1 un peu après, pour ça. Mais du coup, il a cherché plusieurs gars. Il connaissait John Paul Jones, de fait, parce que, bah, il avait enregistré plusieurs trucs avec lui. notamment Michel Polnareff.
Bien sûr. Par exemple.
La ref.
C'est un exemple.
Et de fil en aiguille, parce qu'il a demandé plusieurs chanteurs et chaque gars lui ont proposé d'autres gars, qui lui ont proposé d'autres gars, jusqu'à finir sur Robert Plant.
Ouais.
Robert Plant a ramené, lui, son petit poteau d'enfance qui est John Bonham.
Incroyable.
Et en fait, il faut savoir que John Bonham et Robert Plant jouaient dans le même groupe Band of Joy.
Ouais.
Ou un autre membre dont le nom m'échappe, que je vais vous retrouver tout de suite.
T'inquiète.
qui, en fait, lui, a rejoint Jethro Tull.
D'accord, ok. Donc tout le monde.
Tout le monde se connaît. C'est un petit monde de rock, en fait.
C'est trop drôle, ouais, de fou.
Incroyable. Et du coup, pendant que tu nous retrouves le petit nom, si t'as envie.
Ouais, je t'en
prie. Bah, après, du coup, en 69, bien sûr, commence le début, puisqu'ils vont sortir leur premier album, Led Zeppelin. Un, parce que
exactement.
La semaine dernière, enfin, on vous a parlé de Queen qui faisait
on
Queen
vous a parlé
1,
de
Queen 2,
Queen.
Là, Led Zeppelin, accrochez-vous, il y en a des chiffres.
Ils ont sorti effectivement leur premier album, donc éponyme, Led Zeppelin, je sais plus s'il y avait déjà le 1 à l'époque, mais c'était Led Zeppelin. Que ça s'appelait. Ils ont sorti du coup leurs trois autres, Led Zeppelin 2, 3, et le quatrième qui n'avait pas de nom, mais qui, comme il en avait pas, fallait lui enfiler un, donc on lui a attribué le nom.
Les gens,
de,
quoi.
Les gens, la masse, l'ont nommé Led Zeppelin 4. En tout cas, Led Zeppelin 1, du coup, c'est un album qui tenait particulièrement à cœur du coup pour Jimmy Page, vu que c'était un peu lui qui était à l'initiative, ou plutôt qui avait voulu créer ce groupe. Donc ils ont enregistré cet album en seulement 36 heures pendant le mois d'octobre 68 au studio Olympique de Londres, et en fait ça donne ce qu'on appelle le terme album en public. Donc ouais. En fait c'est un album où tout est enregistré d'une traite, et du coup ça donne une assez grosse uniformité, puisqu'au final il n'y a pas vraiment d'espace entre, il n'y a pas le temps de se passer grand chose, et du coup ça donne comme si tout était enregistré d'une traite, et au final c'est ce qui donne ce son très uniforme, cette continuité tout au long de l'album. Et ce sera un très grand album, puisqu'il, pour beaucoup, il sera le plus représentatif du style de Led Zeppelin. En tout cas c'était un très gros début, hein, on peut le dire. Mais ils avaient donc sorti un des sons que je vais vous faire qu'on va écouter juste après. Donc c'est le premier de l'album. Elle a été écrite en collaboration entre Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham. Elle ouvre donc le premier album du groupe, et c'est également le premier single du groupe aux côtés de Communication Breakdown. Et le single s'est placé 80e, en 80e place des charts. Pour une première sortie, oui, c'est ça clairement. Va, tu vois, c'est honnête. Et pour cette chanson, du coup, Jimmy Page, il a placé des micros un peu partout dans le studio afin d'obtenir un son très live, très, très brut comme ça. Et je vous propose qu'on s'écoute immédiatement Good Times, Bad Times.
On rembobine. Yeah.
C'était Good Times, Bad Times, le premier son du premier album de Led Zeppelin, appelé Led Zeppelin. Voilà.
Rien que ça.
Un très bon morceau, ça fait bouger, hein. T'as envie d'écouter ça en concert. Et pour autant, ils l'ont pas joué tant que ça en tournée, même depuis toute leur, pendant toute leur carrière, ils l'ont pas beaucoup joué celui-ci. Ou alors, ils le jouaient introduit par la chanson Communication Breakdown, du coup, qui était celle sortie en single.
Bien sûr.
Mais voilà, c'était pas un des morceaux les plus représentés sur scène.
Mais un très bon morceau qui ouvre un très bon album.
Carrément.
Et qui ouvre une première bonne tournée.
Tournée, effectivement. Le producteur, dont le nom m'échappe encore une fois, décidément, les noms et moi,
t'inquiète,
c'est compliqué. C'est
pas grave. Il y en a beaucoup en même temps, c'est pas évident.
Mais en fait, il profite du fait que Jeff Beck annule sa tournée aux États-Unis pour envoyer Led Zepp. Okay. Mais Led Zepp est censé être première partie d'un groupe un peu obscur des États-Unis à l'époque que j'ai regardé. Pff, on se souvient même pas du nom.
C'est obscur, quoi.
C'est obscur. ça le reste, et ça, je pense que ça l'était pas à l'époque, mais là, ça l'est. Et. Led Zeppelin est réputé pour en fait principalement faire du live. C'est ce pourquoi Led Zeppelin est connu, c'est ces moments de live.
Bien sûr.
Et en fait, on avait des morceaux comme Dazed and Confused, alors que peut-être pas forcément sur l'album. Si, il est sur le premier album, Dazed and Confused.
Je crois. Oui, je crois. On va vérifier ça de façon.
Mais, mais des morceaux dans le genre-là qui prennent entre 20 et 40 minutes de concert. Les concerts de Led Zeppelin duraient 4 heures.
Ouais, beaucoup d'impro.
Beaucoup d'impro, beaucoup en fait d'impro qui ont donné lieu à des morceaux. Wall Outta Love a été entendu au départ dans des impros faits en live de Yardbirds. Ça a donné ensuite Wall Outta Love. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y a eu pas mal de plagiat concernant Led Zeppelin, mais ça, on reviendra dessus. Mais où John Bonham fait des solos de 30 minutes sans les baguettes, où il fait du tam-tam, quoi, avec sa batterie. 30 minutes de ça, et il arrive à garder public. On a aussi du clavier pendant 40 minutes par John Paul Jones. On a 30-20 minutes de guitare, et c'est ça tout le temps. Et au point qu'en fait, ils étaient première partie, et certains groupes, alors selon la légende encore une fois, mais certains groupes aux États-Unis qui avaient accueilli Led Zepp en première partie refusaient ensuite de monter sur scène, et en fait, Led Zepp gardait la soirée pour eux.
C'est ultra drôle. Quand ta première partie te carry comme ça, genre t'as même plus envie de monter, t'imagines?
Non, mais c'est parfait. Mais ça illustre bien une chose, c'est que du coup, ils ont fait beaucoup de tournées, beaucoup de concerts.
Grave.
Et qu'il y a un son live particulier, et même pour le premier album, t'en avais parlé. Mm-hmm. Et là, en fait, la particularité du deuxième, qui reste aussi du coup dans la même année, en 1969, on parle de Led Zeppelin 2. Et ben en fait, donc lui, il n'a pas nécessité 36 heures d'enregistrement, bien sûr, mais 8 mois. Voilà, parce qu'en gros, calendrier assez compliqué avec les tournées, parce que du coup, en fait, ils alternaient entre tournées et enregistrement, mixage dans des studios, mais des studios à chaque fois très différents. Et en fait, même donc John Paul Jones le disait, on tournait beaucoup et les riffs de Jimmy, donc comme tu disais, en fait, parfois il jouait des riffs comme ça, il improvisait, mais en fait, ça leur a servi à créer plein de nouveaux morceaux pour ce deuxième album, dont notamment Wall Outta Love ou bien sûr Heartbreaker.
Ouais.
Que je vous propose simplement d'écouter parce qu'en fait, moi, les morceaux que je choisis, c'est des gros riffs parce que Jimmy Page, c'est des gros riffs.
Il est trop fort,
Et du coup, je propose qu'on écoute.
On rembobine. Time.
On rembobine de 21h à 22h sur RCN.
Et oui, on écoutait Heartbreaker dans le deuxième album de Led Zeppelin 2, sorti en 69 bien sûr, célèbre pour son fameux riff de guitare et son solo qui a été élu 16e meilleur solo de tous les temps, rien que ça mesdames et messieurs.
Oui, avec sûrement 15 titres de Led Zeppelin. Oui, bon,
ça c'est une autre histoire, mais voilà, un album qui... on peut dire un son très spontané lié à tout ce qui est donc les concerts bien sûr.
Mais ça me fait plaisir que tu parles du son parce que Jimmy Page il a un son très caractéristique.
Ouais, grave, bien sûr.
Il ferait un peu dresser les cheveux de Brian May par exemple quoi. On a pas David Gilmour, mince comment il s'appelle. D'ailleurs Strait, le guitariste.
Mark Knopfler.
Mark Knopfler exactement. Où ils ont des sons très précis. Du coup les deux que j'ai cités ont des sons hyper précis où il y a pas de fausses notes, il y a pas de tout est calculé.
Bien sûr.
Alors, sans dire que Jimmy Page est un gros bourrin, il est beaucoup plus dans l'instinct, dans le ressenti, et en fait, il va avoir un son assez crade, en fait, sur sa guitare.
Bien sûr.
Avec des sons un peu dissonants, avec une vraie recherche de l'ambiance, de l'esthétique, plutôt que de la note. Et c'est ça qu'on reconnaît tout de suite, une guitare de Jimmy Page, en fait.
Et pour autant, c'est ultra maîtrisé. Genre, tu le sens que quand il fait des solos, on en parlait en off, mais il y a des sons qui ont été faits, vous le disiez, one shot, enfin, genre, qui l'a improvisé. Ouais. Et ça donne un son, tu vois.
On avait dit Since I've Been Loving You,
bien sûr.
Il a fait le solo comme ça en une prise.
C'est quand même fou, quoi.
Et tu regardes Black Dog, il n'y a pas une fois où ils la font pareil.
Ouais.
Il n'y a pas une fois en live ou en studio, c'est jamais la même. Les mesures, c'est un bordel.
Pareil pour Stairway to Heaven, en fait, à chaque fois, ça implique de l'improvisation, mais parce que c'est comme ça, c'est du feeling et ça marche hyper bien et ça fait des concerts de fou, quoi.
J'invite un peu les initiés à la musique qui savent un peu lire des partitions à regarder les partitions de Led Zeppelin, notamment Black Dog, puisque c'est celle que je viens de citer, mais regardez.
Bah, il n'y en a pas.
tu sens que c'est un peu empirique, comme ça. C'est des gens qui ont dit non, mais bon, ça va être à peu près comme ça pour la refaire version studio, mais en fait, il n'y a pas vraiment de partition, il n'y a pas vraiment de choses établies, gravées dans le marbre.
Et du coup, on va pouvoir passer, bien sûr, à Led Zeppelin 4, mais bon, il y a le 3 normalement, donc on aurait pu en parler, puisqu'il y a Immigrant Song, où on parlait notamment de Jimmy Page, mais il ne faut pas oublier la voix de Robert Plant, hein, qui est incroyable.
Mais voilà. La voix de Robert Plant, le calme de John Paul Jones, j'ai envie de dire. La sauvagerie de John Bonham.
De fou. Non, mais ça forme un groupe de fou. Et on aurait pu aussi, du coup, comme on a dit, parler de Since I've Been Loving You, où bien sûr ça a été enregistré en une seule fois.
Moi, je voulais rebondir juste sur la voix de Robert Plant, justement.
Ouais, bien sûr, vas-y.
C'est que ce groupe, on le disait, il a été ultra influent dans les années 70, peut-être le plus influent. Et ils ont donné des sons comme celui d'AC/DC, de Scorpion, de Kiss ou de Judas Priest plus tard, même des Sex Pistols. Et je trouve qu'il y a une similitude pas mal entre le chanteur d'AC/DC. Angus Young et Robert Plant.
Enfin, bien sûr.
Depuis que j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie comment, quoi. Les gros riffs de guitare bien saturés comme ça, bien micro grave.
C'est une grande influence.
Avec une voix aiguë, et je trouvais ça assez drôle de faire le rapprochement.
Ouais, AC/DC est juste revenu sur du 4x4 avec une bonne
musique. Exactement. C'est ça, c'est exactement.
Parce que là, Heartbreaker, on comprend rien. C'est pas possible, d'accord.
Robert Plant, en fait, c'est un chanteur de blues de base.
Ouais.
Il est venu chercher un chanteur de blues pour faire du hard rock.
C'est drôle.
Mais ça sonne bien.
Très bien.
Et du coup, on va passer à Led Zeppelin 4, hein, bien sûr. Bon, qui ne s'appelle pas Led Zeppelin 4, comme on l'a dit, qui n'a pas de nom, en fait. C'est juste, bien sûr, les 4 symboles que chacun des membres du groupe a choisi. Alors, on aurait pu passer des morceaux comme Stairway to Heaven, bien sûr, ou When Levy Break.
Oui,
bien sûr.
Avec une batterie de John Bonham qui est
incroyable. Donc un des albums les plus vendus de l'histoire, bien sûr, avec 37 millions d'exemplaires juste dans le monde. Et bien sûr, en fait, dans cet album, il y a un morceau que tu as choisi, Baptiste, car je crois que c'est le premier morceau que tu as entendu de Led Zeppelin.
Ouais, effectivement, sur mon vieux MP3 avec un motif drapeau UK comme ça, un peu.
Ok, ouais, je vois.
Tu tapes, ça sonne creux.
Ouais.
J'avais piraté, je le dis sans.
Quoi ?
J'avais piraté quelques morceaux, notamment Rock'n'Roll de Led Zeppelin. Je connaissais pas Led Zeppelin, je connaissais le rock. Je me suis dit, un morceau qui s'appelle Rock'n'Roll, pourquoi pas.
Ouais.
Et je l'ai écouté, j'ai pris une claque, et après j'ai télécharger toute la BO de Led Zeppelin.
De Led Zeppelin, okay. Ça se tient.
J'ai adoré, ouais, effectivement. Et Led Zeppelin 4, d'ailleurs, a aussi pas mal de choses à dire, parce que Stairway to Heaven, c'est controversé, parce que y a Spirit, le groupe qui avait écrit Taurus, je crois, le morceau, qui ont emmené en justice Led Zeppelin pour plagiat.
Ah ouais.
Il y a beaucoup, en fait, Led Zeppelin est vachement, il y a beaucoup de ponctuation comme ça, de plagiat tout au long.
Après, Jimmy Page a dit qu'il avait jamais entendu le morceau de sa vie, donc.
Moi je le crois. Pas vu, pas pris.
Jimmy, je te crois. En tout cas, je te propose qu'on revive cette claque que tu t'es pris
Avec
on rembobine.
Grand plaisir.
Rock and roll, Led Zeppelin en 71 dans leur album qui n'a rien
dans l'album,
mais c'est le 4. Voilà,
c'est le 4.
Led Zepp 4,
qui s'appelle aussi Four Symbols.
Oui, et oui, oui. Ils ont choisi, chacun choisit un album. Voilà, c'est dur à dire. Chacun choisit un symbole.
Un symbole
pour l'album.
On pourrait faire le descriptif de tous les symboles, mais c'est pas très passionnant.
Non, on voulait se regarder.
Juste que Jimmy Page aime beaucoup la magie, grou-grou et tout ce qui est occulte.
De fou, c'est vrai que c'est quelque chose qui a commencé à arriver ensuite. J'ai plus tous les noms de des trucs comme ça, mais il y avait plein de délires un peu pseudo-sciences, comme appellent ça les scientifiques, où c'est tout des trucs naturels qu'on ne voit pas. Et il y avait un peu ce délire très mystique qu'ils aimaient bien et qui retranscrivait pas mal. Et c'est, ça se traduit notamment d'ailleurs par un glissement notamment vers la folk aussi, qui est pas mal dans cette petite dimension très nature, très on est connecté à ce qui nous entoure. Enfin moi ça me fait ça quand j'écoute de la folk, je sais pas.
D'accord.
Vous. Mais et du coup je fais ma propre transition sur le prochain son qu'on va s'écouter, donc qui est dans Led Zeppelin 4.
Toujours
ça bouge pas. C'est Going to California. Voilà, la chanson elle emprunte du coup son style mélancolique au genre folk, justement on en parlait, avec Robert Plant au chant et Jimmy Page à la guitare acoustique, et John Paul Jones qui jouait de la mandoline. On disait qu'il jouait de plein de choses, et ben là voilà, il jouait de la mandoline.
La mandoline.
On diffère du coup des autres pistes de l'album qui sont jouées eux avec des instruments électriques, donc justement plus des sonorités rock. Et donc là c'est la première qu'on écoute de cette émission où c'est plus calme, profitez-en. Le groupe... Pourquoi tu rigoles?
Non, pour rien, t'as agressé le micro.
J'ai agressé le micro. Le groupe joue cette chanson lors des intermèdes acoustiques de leurs concerts et ils en faisaient pas mal à partir des années 71, notamment au Royaume-Uni. Et cette balade elle est inspirée notamment de la chanteuse compositrice canadienne Joni Mitchell, dont Plant et Page étaient... Incroyable. Tous deux amoureux. Voilà,
ils sont bien,
il faut le savoir.
Amoureux comme quelqu'un qu'on voit à la télé, dont on est amoureux.
Je pense que c'est plus comme ça que.
Ou amoureux parce qu'ils l'ont rencontré. Et...
Mec, je sais pas. Faut leur demander.
Amoureux. Voilà.
Ils étaient amoureux.
Ils étaient amoureux.
Ils étaient amoureux.
Johnny Mitchell.
Ils l'aimaient beaucoup.
Ils étaient Morgan.
Ils étaient Morgan d'elle. Et lors des représentations sur scène, justement, Robert Plant qui prononçait fréquemment le nom de Johnny. Pour.
Aïe, aïe, aïe.
En mode. Hey! Petit coucou, tu vois. Et je voulais aussi revenir sur... donc là, c'est du folk, mais ils en ont une flopée des inspirations et des styles de musique. Donc ça passe par le blues, le rock, ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Il y a du folk, il y a aussi du rockabilly, du reggae.
Oui, ouais. Le titre Jamaica.
C'est des choses qui arrivent. Il y a de la soul, il y a du funk, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a des musiques celtiques, il y a des musiques indiennes et plus orientales.
Effectivement,
un peu
avec
arabe,
beaucoup
etc.
d'instruments d'ailleurs qui sont, ouais. Tu l'as dit, une mandoline, il y a une sitar aussi avec laquelle il joue.
Ouais.
Et John Paul Jones joue avec un clavecin, avec un orgue.
Ouais.
Tu parles de musique classique pendant ces solos de 40 minutes qu'on a pu citer un peu avant. John Paul Jones mettait des parties de musique classique pendant.
Ouais.
Pendant les concerts où ça, il tout seul en solo.
Ouais. Et ça c'est des choses qu'il faisait beaucoup d'ailleurs, les medley, ajouter des petites ambiances sonores et des skits récupérés un peu partout dans leur musique.
Mais d'ailleurs pour avoir vu Eddie Purple récemment là, c'est leur dernière tournée, j'ai eu de la chance.
Wow.
Justement le claviériste, son nom m'échappe, décidément ça devient un running
gag. C'est pas grave.
son nom m'échappe, et ben il a fait exactement ça. Et je me dis mais mince, est-ce que c'est John Paul Jones qui a lancé le truc, ou est-ce que ça se faisait déjà dans les 70, un peu tout le monde s'était passé le mot?
Ouais.
Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais c'est une question que je pose comme ça, dans le vide.
Si vous avez la réponse, chers auditeurs,
envoyez-nous la réponse.
La réponse, on l'a fait.
Mais il faisait Mozart, il faisait la marche turque, c'était incroyable. Ouais. Et sur de la batterie rock et tout, quoi.
Ouais. Ça, c'est ouf, ça prouve vraiment qu'il sait faire de tout. Et je vous propose qu'on s'écoute du coup ce petit morceau, donc Going to California sur Led Zeppelin 4.
On rembobine.
Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Red and the sky was gray. One that had tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to wake. Watch out. Thank you.
find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white man in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
On rembobine avec Joris jusqu'à 22h sur RCN.
C'était... Oui ?
Et pas que Joris.
Et pas que Joris.
Il y a Pablo et
il y a plein d'autres gens.
Mais voilà,
et la discipline. Et la discipline. Il est avec nous, bonjour.
Pardon, excuse-moi, c'était Green de California, bien sûr.
On vient de vivre ce que vivent John Paul Jones et John Bonham, je pense, tout le long de leur carrière. Led Zeppelin avec Jimmy Page.
Ouais.
Mais pas que.
Mais pas que.
Et que beaucoup de groupes ont vécu. Mais ouais, on en reparlera, bien sûr.
C'est le truc comme ça. Mais ouais, voilà, donc extrait de leur album 4e. Du nom. Et voilà, moi, ça me fait kiffer ces petites balades comme ça à la guitare, à la voix. Et qu'est-ce qu'il chante bien, merde, Robert Plant, c'est fou ça quand ouais. même.
Et du coup, moi, je te dis, puisque là, c'était le calme avant la tempête, puisqu'on va retourner à du bon gros rock. Désolé.
Je m'en fous, je reviens après avec un ouais, autre son vol, donc tu me laisseras.
On verra.
Partie
si on a le temps. Mais là, on va passer par le premier morceau que moi j'ai entendu de Led Zeppelin comme toi, Baptiste, avec Rock and Roll.
Incroyable.
Puisque c'est le morceau Black Dog. Alors, on ne présente plus ce morceau. Normalement, beaucoup de gens le connaissent, mais il est toujours quatrième album, hein, Led Zeppelin 4.
Classé combien des meilleurs riffs, celui-là ?
Oh là, pas mal. Beaucoup dans
tu
le top.
Tu sais pas ?
Non, je
ah
sais
non,
pas.
Je sais pas.
Vu qu'il avait regardé que c'était...
Merde, oh non, il me demande une
anecdote. T'as pas le classement de tous les riffs de Led Zeppelin ?
Il me demande une anecdote. Il faut que j'en trouve une. Ok, une anecdote. Robert Plant est un grand fan du Seigneur des Anneaux, mesdames
oui.
et messieurs.
Ah, effectivement.
Parce qu'il a placé beaucoup de références dans ses chansons. Par exemple, la chanson Misty Mountain Hope, hein, bien sûr, dans le premier album, Misty Mountain, voilà, ça parle. Il a aussi cité, bien sûr, dans Rumble On, Gollum et le Mordor. Voilà, non, on peut pas faire plus clair. Il a aussi, bien sûr, The Battle of Evermore dans Led Zeppelin 4, bien sûr, et Over the Hills and Far Away, qu'on parlera, bien sûr, dans un autre album plus tard, avec beaucoup de références à l'univers de Tolkien, mesdames et messieurs. Mais ça, c'était l'anecdote. Place à la musique avec Black Dog.
On rabobine.
Hey!
C'était le morceau Black Dog, toujours dans cet album numéro 4 qui nous lâchera jamais, j'ai l'impression.
Ah non, il veut pas partir.
En tout cas, voilà, Black Dog. Et d'ailleurs, le riff a été trouvé par John Paul Jones. Oh waouh!
Comme par hasard.
Et oui, pas Jimmy.
Ouh, il est nul.
Ouh, Jimmy,
il a pas réussi à le trouver, celui-là.
Je rigole. Et bien sûr, on va enchaîner. On va skipper le cinquième, mais juste pendant un instant pour parler du sixième avec toi, mon Pablo.
D'accord. Moi, vous voulez repartir sur du rock, mais moi, j'insiste.
Voilà.
Je veux garder de la folle. Ok. Donc, on fait un saut, comme tu dis, sur l'album Physical Graffiti. Qui est sorti lui en 75. C'est le premier album qui a été produit sur le label Swan Song Records, qui a été créé du coup par le groupe ensuite. Et ça, c'est assez important parce que ils sont indépendants à ce moment-là. Et ça, c'est cool. Et ça se traduit notamment par le fait que Jimmy Page, du fait qu'il ait eu plusieurs groupes avant, qu'il ait eu une bonne expérience en studio et pas mal dans la musique en général, il avait cette envie de justement faire ce qu'il voulait. Il disait toujours, moi, si je fais de la musique tout seul ou avec un groupe et que c'est moi qui dirige, c'est à ma sauce, c'est moi le producteur, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je pense, c'est sa philosophie. Et du coup, voilà, ils ont créé donc ce label Swan Song Records et ils ont produit ce premier album, Physical Graffiti. Pour l'anecdote, les deux immeubles photographiés sur la couverture de l'album, c'est les 96 et 98 rue Saint-Marc's Place à New York. Et c'est les mêmes immeubles que celui utilisé pour le clip vidéo de la chanson Waiting on a Friend des Rolling Stones.
Wow.
Voilà, fun fact dans vos faces.
Fun fact autour des Rolling Stones, si je peux me permettre.
Bah oui,
vas-y,
là,
encore.
Tu peux,
vas-y,
balance.
John Paul Jones a enregistré avec les Rolling Stones. Il les a trouvés ennuyeux et pas du tout professionnels.
Ouais.
Alors, pas pro, je veux bien le croire. Ennuyeux, je sais pas. Peut-être sous LSD, mais tu te fais plus chier.
Après, en même temps, il a fait l'orchestration de She's a Rainbow. C'est pas non plus le morceau le plus fun des Rolling Stones.
James Pagel, ça fait ça?
Ouais.
Ok.
Voilà.
Et il a trouvé
fun
ça,
fact,
c'est chiant. Tout est lié, gros. Putain, c'est fou comment ils font ça. Du coup, moi, j'enchaîne donc sur mon son,
bah oui, ton son
qui s'appelle, je vais essayer de le prononcer correctement.
Vas-y.
Je vais le dire comme je le lis. Hein. Braun Ear Or.
Je pense pas que ça se prononce. Ouais.
Bah,
ça.
Tu le dirais comment, toi?
Moi, je dirais Braun Ear.
Bon, vous irez chercher si vous êtes
Braun Ear. Voilà, chers auditeurs.
Gallois, il me semble.
Exactement. C'est un mot gallois qui veut dire poitrine d'or en gallois. Et c'est le nom d'une maison située à Gwynedd, au Pays de Galles. C'est la maison où les membres du groupe se sont retirés pour enregistrer Led Zeppelin 3. Justement, et ce morceau devait être sur les Zeppelin 3, mais au final ils l'ont pas gardé et ils l'ont édité sur le morceau.
Cela dit, il y a un morceau dans les Zeppelin 3 qui apporte quasiment le même nom.
Oui.
Exactement.
Braun Junior Stomp.
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 Il y a juste un mot en plus.
Et ce morceau, il est un peu particulier parce que déjà c'est de la folk et c'est un morceau instrumental. Il n'y a pas de voix, il y a uniquement cette petite balade très très jolie. Et ils en font quelques-unes des moments. Des passages instrumentaux dans leurs morceaux en général. Il y a souvent des longs moments où c'est très orchestral, très, très pesant, comme ça on s'envole avec eux. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble.
Bah, qu'est-ce qu'on fait, Baptiste? Normalement, tu sais.
Ouais, on rembobine, non, c'est ça.
Thank you.
c'est beau.
Il est beau.
Oh, c'est vraiment très magnifique.
C'est magnifique.
On est dégoûté que ça dure si peu de temps parce que ça dure seulement 2 minutes 06 et c'est le titre le plus court de Led Zeppelin.
C'est vrai?
Oui.
Incroyable.
Voilà, fun fact encore.
Incroyable.
Que des fun facts dans cette émission.
En tout cas, très beau morceau, merci mon Pablo.
Je vous en prie.
Et malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission.
Déjà...
On va pas se quitter comme ça, bien sûr. Parce que déjà, il faut qu'on laisse Baptiste un peu parler. Et surtout, parce qu'en fait, on va passer sa chanson préférée.
Alors là, c'est pas pour rien, les gars.
Ta
si
chanson
dépasse...
préférée, Baptiste.
Avant ça, faudrait parler du moment où si on faisait un biopic, un peu comme Bohemian Rhapsody ou le dernier film sur Bob Dylan, encore une fois.
Complete Unknown.
Complete Unknown. Ce serait le moment un peu dramatique où on se dirait mince, tout va mal, tout part en sucette. Parce qu'à partir de 75 et jusqu'aux années 80, c'est la chute
débandade.
Libre.
Ouais.
La débandade, effectivement. On a en 75 un accident de voiture pour monsieur Robert Plant qui doit enregistrer l'album en question. Alors je ne sais plus lequel dans la chronologie.
En fauteuil roulant.
On a quelques temps après, et ça c'est vraiment très malheureux, son enfant de 5 ans qui décède.
Ouais.
Qui fait qu'il ne peut plus remonter sur scène à cause d'une lourde dépression. Mmh. On a Jimmy Page qui finit cocaïnoman. À partir de 77, je crois.
Aïe, aïe, aïe.
On a John Bonham qui, lui, est alcoolique.
Et qui en mourra, bien sûr.
Et qui en mourra, effectivement, qui va d'ailleurs finir l'histoire de Led Zeppelin, puisqu'en 1980, il va décéder Jimmy Page de l'alcool, d'une soirée beaucoup trop arrosée, et ce qui va en fait conclure Led Zeppelin. Et on a là-dedans John Paul Jones, qui, c'est aussi là où il ne faut pas l'oublier, cet homme, parce qu'il est extrêmement talentueux. Et en plus de ça, pendant environ 5 ans, alors précisément, je ne sais pas, mais environ 5 ans, il va essayer de bec et ongle de maintenir Led Zeppelin à flot. Mmh. Et en fait, la plupart des morceaux et la plupart des enregistrements et des lives même qui ont lieu entre cette période-là sont notamment grâce à John Paul Jones qui reprend un peu l'organisation du truc. On a Jimmy Page qui arrive en retard, qui fait des prestations mauvaises, qui en studio prend beaucoup plus de prises. Mmh. Enfin, c'est terrible, quoi. Et du coup, on va finir sur une note positive. Effectivement, mon morceau préféré de The Rain Song, de Led Zeppelin, The Rain Song. Ce morceau-là, j'ai découvert beaucoup plus tard, en fait, parce que, effectivement, j'avais pas écouté toute la bibliographie.
La discographie,
merci. J'ai menti, j'avais pas fait ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont échappé. Et en fait, c'est quand j'ai vraiment voulu apprendre quelques morceaux de Led Zeppelin à la guitare que j'ai découvert ce morceau. Et je l'ai découvert en jouant, en fait. Et quelle pépite! Et c'est intéressant de savoir qu'en fait George Harrison, en fait ce morceau c'est un gros morceau de revanchard, c'est le Comte de Monte Cristo en une musique, c'est ça, c'est George Harrison qui était allé voir John Bonham qui a dit de toute façon vous votre problème c'est que vous faites jamais de balade, vous faites que du gros lourd hard rock, gros riff comme on le dit juste avant, et John Bonham il est allé cafeter à Jimmy Page, il a dit ah ouais, on fait.
Et bah tiens, regarde.
Allez, 12 minutes The Rain Song et George Harrison il a qu'à bien se tenir.
Et bah en tout cas merci Baptiste. C'était super cette émission avec toi. Tu reviens quand tu veux.
Ouais.
Merci à toi, Pablo.
Bah, comme d'habitude, fidèle au poste. C'est toujours un énorme plaisir de faire ça. Et encore une fois, un nouvel invité. C'est génial.
Incroyable. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais on se quitte avec The Rain Song.
On rembobine, oui, effectivement.
On rembobine.
Je vais arroser mes Robert Plant. J'ai écrit sur ma Jimmy Page. Thank you.
words of the blue. Speak to me only with your eyes. It is to you I feel this too. Ain't so hard to recognize, though. These things are clear to all from time.
Of the cold ship, cold ship.